Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et sa grâce. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur. Agis au milieu de nous, Seigneur, par ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Jérémie 29. Jérémie au chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Je pense que c'est un passage que beaucoup d'entre nous avons déjà entendu, ne serait-ce qu'une fois, dans notre parcours chrétien. Verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce passage que nous venons de lire, le contexte est lequel? C'est que les Juifs, les enfants d'Israël, sont déportés, sont emmenés captifs chez les étrangers et en tant que peuple captif, ils sont sujets à toutes sortes de servitudes. Ils sont déjà loin de chez eux. Et vous savez, quand vous vivez un peuple loin de chez vous, il y a toujours une souffrance qui est liée à cela. Et Dieu parle à ce peuple en disant que même si vous êtes à l'étranger, moi, l'Éternel, je me manifesterai. Je vais me manifester pour que les peuples autour sachent que je suis Dieu et que vous-même aussi, vous réalisiez ma présence, ma réalité. Ce peuple était en exil et je voudrais tout de suite faire un parallèle avec nous en tant que chrétiens aujourd'hui qui sommes dans ce monde. Dans ce monde, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 11 que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes en pèlerinage, en quelque sorte, nous sommes de passage. La terre est comme une escale, ce n'est pas la destination. Vous savez, quand vous allez, par exemple, de Paris à Johannesburg, généralement, il y a des vols directs, mais parfois, il y a des vols indirects où vous allez faire une escale quelque part et ensuite, soit dans les Émirats Arabes Unis, à Doha ou par là, ou alors avec Éthiopien, en Éthiopie, et ensuite, vous descendez à Johannesburg. Et la destination, c'est le lieu où on va. Et là, ce peuple est en exil. Il est captif. Mais dans cet exil, Dieu lui dit, j'ai un projet. Et quel est ce projet? C'est, Dieu dit, je connais les projets. Donc Dieu a déjà fait un projet. Il a déjà mis en place un projet. Et il dit, que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, cette promesse de Dieu, le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est le projet de Dieu. Dieu a un projet pour chaque homme. Dieu a une vision pour chaque homme. Dieu a un objectif, de la même manière qu'un parent responsable. Lorsqu'il a des enfants, il envisage, il anticipe des choses pour la venue de l'enfant. On prépare la layette, on prépare la chambre, on prépare les vêtements. On n'attend pas que l'enfant soit là pour commencer. Non, on anticipe. Et Dieu, de la même manière, nous dit qu'il a formé un projet. Mais quel est ce projet-là? Il dit que ce n'est pas un projet de malheur. Au contraire, c'est un projet d'avenir avec de l'espérance. Mais tout cela va avec la paix qu'il donne. C'est ça, bien-aimé. Le thème d'aujourd'hui, c'est le projet de Dieu. Nous allons lire Luc 12. Donc, on retient le projet de Dieu et la volonté de Dieu qui est de nous donner une véritable vie. Nous lisons Luc chapitre 12. Et là, nous allons voir le projet d'un homme. Luc 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère, de partager avec moi mon héritage, notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour semer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai de toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé ? Pour qui sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà l'histoire que Jésus raconte en réponse à cet homme qui vient le voir pour dire, « Maître, toi tu as une autorité, tu es un rabbi, tu es un enseignant de la loi. Et je suis sûr que si toi tu interviens dans l'histoire avec mon frère pour l'héritage, mon frère va s'y soumettre. » Et Jésus lui dit, « Mais homme, qui m'a établi juge ? Moi, je ne suis pas venu pour ça, pour juger les affaires de cette terre. Moi, je suis venu avec un objectif qui est plus grand. » Il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Alors, nous voyons maintenant l'histoire que Jésus raconte. Un homme qui a travaillé toute sa vie et qui finalement arrive au moment où il veut profiter de tout ce qu'il a fait. Il dit, bon, maintenant je veux m'arrêter, je vais profiter. Et alors c'est intéressant ce qu'on nous dit. On nous dit au verset 18, « Voici, dit-il, ce que je veux faire, je vais abattre mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai mon âme. » Vous voyez comment il fait sa feuille de route, hein, il fait son projet. Il dit, verset 19, « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend ici? C'est que pour cet homme-là, son plaisir, sa joie, c'était d'avoir beaucoup de biens. Il dit, « Mon âme, réjouis-toi parce que maintenant, tu pourras profiter de tout ce que j'ai amassé, j'ai produit comme travail. » Et c'est ça la joie de cet homme. Vous voyez, ça contredit ce que Jésus dit. La vie d'un homme ne se trouve pas dans ses biens. La vie d'un homme se trouve dans le projet que Dieu a fait pour lui. Alors, pourquoi? Parce que, vous voyez, cet homme a fait des grands projets. Intéressants. Mais il a négligé des paramètres. Quels paramètres il a négligé? C'est que l'avenir appartient à Dieu. Il a négligé le fait que le lendemain appartient à Dieu. Vous savez, Jacques 4, 15 nous dit, plutôt que de dire, demain je ferai ceci, demain je ferai cela, demain j'irai à tel endroit, Jacques dit, vous êtes fou. Dites plutôt, si Dieu le veut, parce que ça, c'est le paramètre le plus important. Vous voyez, cet homme, il a bien travaillé. Et au moment où il se dit maintenant, bah, je vais me profiter, Dieu lui dit, tu as oublié le paramètre le plus important. Le paramètre le plus important, c'est quoi? C'est la vie. Puisque quand la vie n'est plus là, les biens, qui va en jouir? Qui va en profiter? Personne. Tu as beau avoir la plus belle voiture, mais si tu n'as plus la vie, ben, la voiture ne va pas démarrer. La voiture a besoin de toi pour démarrer. Et toi, tu as besoin de la vie. Et la vie qui vient de qui? La vie qui vient de Dieu. Je voulais faire ce contraste entre le projet que Dieu donne, le projet que Dieu a pour nous, et le projet qu'un homme peut avoir. Il est écrit dans Proverbe 19, 21, qu'on ne va pas lire, mais ceux qui notent peuvent le noter. Proverbe 19, 21 qui nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais qu'est-ce qu'on nous dit? On va lire alors, peut-être pour que ce soit clair. On va revenir à ce passage ensuite. On va lire Proverbe. On nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais il y a une variable importante, c'est Dieu. Quel que soit le projet que tu peux avoir, il faut tenir compte de Dieu aussi. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui fait comment? Qui s'accomplit. Donc, quels que soient les projets que tu peux avoir, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, bien-aimé. C'est ça la réalité. L'homme a beaucoup de projets. Tels que nous sommes là, je suis sûr que beaucoup n'avaient pas pensé être ceux qui sont aujourd'hui. Certains avaient pensé être peut-être pilote d'avion, astronaute. Il y a des projets infinis dans le cœur de l'homme. Mais on nous dit, attention, parce qu'il y a un paramètre que l'homme a tendance à oublier, c'est lequel? C'est la volonté de Dieu. Et c'est ça qui se passe avec cet homme. Nous lisons aussi, comme je l'ai dans la tête, le verset. On va le lire, c'est un peu dans le même esprit. Hein. Après, on va revenir à notre verset pour comprendre un petit peu là où nous allons. Ecclésiaste 9. C'est un passage que j'aime beaucoup et c'est un passage bien-aimé qui nous enseigne la réalité de la vie. Ecclésiaste 9, verset 11. Voilà ce que l'Ecclésiaste dit. Ecclésiaste 9, 11. Il dit, « J'ai vu encore sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. » On va expliquer un peu. « Ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend d'eux, car tout dépend pour eux du temps et de circonstances. » Voilà, le verset 12 aussi qui est dans le contexte. « L'homme ne connaît pas non plus son heure. » Pareil aux poissons qui sont pris au filet. Il est comme ça. Alors, je reprends le Ecclésiaste 11. « J'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. » Qu'est-ce que l'Ecclésiaste dit? Il dit que dans la vie, il y a des gens qui courent, des coureurs, qui font des athlètes, qui font du 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, et 800 mètres, 5000 mètres. Alors il dit que j'ai vu par l'expérience que ceux qui gagnent la course, ce n'est pas toujours ceux qui sont les plus forts. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit, ce n'est pas seulement le plus fort qui gagne la course. Il dit la guerre, ce n'est pas seulement le plus fort qui gagne la guerre. Il dit que le pain ne va pas seulement aux sages ou aux intelligents. Je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Vous savez, François Hollande, par exemple, ceux qui l'ont connu, ils vous diront que le monsieur n'était pas spécialement brillant. Il n'était pas spécialement le plus fort. Il n'était pas spécialement le plus... Vous savez, avant d'être président, il n'a jamais été ministre. Il a été 10 ans secrétaire général du Parti Socialiste, mais il n'a jamais été ministre. Donc pour eux, entre eux, dans ce cercle-là, c'est un bon, mais il n'est pas très bon, au point de jouer un rôle principal. Mais bien aimé, nous savons tous dans quel contexte le monsieur a été élu président de la République. Parce qu'il y avait un autre qui était pressenti, c'était Dominique Strauss-Kahn. Mais on nous dit quoi ici? On nous dit, tout dépend de quoi? Du temps et des circonstances. Je ne sais pas si on se comprend. On a vu des grands coureurs, athlètes, le jour de la course. Tu sais, le jour de la course, tu peux être là, mais tu as mal au ventre, excusez-moi le terme, tu as la gastro. Ça peut t'empêcher de gagner la course. On a vu des gens forts à l'école. Le jour de l'examen, il a 11, alors que d'habitude, il a 17 de moyenne. Mais parce qu'il y a des variables, il y a le stress, il y a la peur, il y a la peur de mal faire. Il y a aussi, on a vu des cas où le jour de l'examen, l'ami qui est très fort est malade. Il arrive, il a la fièvre. Donc si l'examen tombait 2 jours avant, il aurait peut-être cartonné. Mais ce jour-là, ça tombe qu'il est malade. Donc lui, il va faire ce qu'il peut faire pour réussir, pour avoir la moyenne. C'est ça qu'on nous explique ici. Ecclésiaste nous dit, en réalité, dans la vie ici, ceux qui réussissent, ce n'est pas seulement ceux qui sont intelligents ou... Non, il y a des contextes. Il y a des contextes, des circonstances. Il y a des gens qui sont arrivés à une place parce qu'il a été dans la promotion d'un tel, qui connaît un tel, qui est dans les réseaux. Ensuite, il s'est retrouvé à tel endroit. Et comme on cherchait quelqu'un, bon, on n'a trouvé personne, on l'a mis à cette place-là. Mais ce n'est pas parce que c'est le plus fort, parce que des plus forts, il y en a. Mais lui, il se retrouve là, en réalité, tout simplement parce que les temps et les circonstances l'ont permis. Maintenant, Daniel 2, 21 nous dit quoi ? Qui est le maître des temps et des circonstances ? C'est Dieu. C'est Dieu. On s'étonne parfois, on dit, mais ce monsieur, le maire, il n'est pas, mais il est pas brillant. Oui, oui, mais il y a des circonstances qui font que le monsieur a un discours qui plaît aux gens et il est élu. Peut-être que 5 ans avant, ça ne marcherait pas. Mais dans le contexte, ça fait que les choses marchent. C'est ça qu'on nous explique ici, bien-aimés. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors nous revenons sur le texte de notre homme de Luc 12, qui se réjouit en disant, mon âme, réjouis-toi. Et nous avons dit, premièrement, que cet homme a oublié le plus important, c'est que il a négligé Dieu. Parce que la Bible nous dit, une voix se fit entendre pour lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tu as fait tes projets, mais tu as négligé Dieu. Bien-aimé, je veux m'arrêter là pour que nous puissions méditer ensemble. C'est ça mon deuxième point. Mon premier point, c'est que cet homme a fait ses projets sans tenir compte de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, le verset qu'on a lu ensuite, il en est de même pour celui qui est riche pour lui-même, mais qui ne l'est pas pour Dieu. Mais mon deuxième point, c'est lequel ? C'est que, vous savez, dans ce monde, hein, les choses changent. Ce monde est instable. Ce monde nous échappe. Ce monde, nous ne le maîtrisons pas. Ce monde est en perte de vitesse. C'est ça la réalité. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Bien-aimé, regardons l'actualité. Regardons l'actualité. J'écoutais à l'occasion des 20 ans, la commémoration des attentats de New York, Ground Zero. Et il y a un chrétien qui témoignait, qui disait que c'est... En fait, les Américains, vous savez, les Américains, ils vivent un peu comme en autarcie. Hein. Les Américains, beaucoup, le peuple, je parle du peuple, et même parfois, même certains hommes politiques, on a vu Bush, ils ne connaissaient pas les noms de certains présidents. Parce que ça ne l'intéresse pas. Le président africain a tout intérêt à connaître les collaborateurs américains, mais le président américain, lui, ce n'est pas son problème. Déjà connaître le président de la France, le chancelier allemand, ça suffit pour lui. Parce que c'est vraiment eux, ses vrais collaborateurs. Alors, cet Américain témoignait, il a assisté, je crois qu'il était présent ce jour-là dans les parages, et il dit, nous étions persuadés, en tant qu'Américains, que nos frontières étaient impénétrables. Nous étions persuadés, vous savez, les Américains, c'est des vrais patriotes. Hein. Pour eux, l'armée, c'est une fierté. Les boys, comme ils disent. Donc c'est... Mais il dit, cet homme, que le jour où on a été attaqué sur notre sol, on a compris que finalement, on n'était pas si à l'abri que ça. On entendait les attentats en Afghanistan, même parfois en France, mais on se dit bon, voilà. Mais nous, déjà, on est outre-Atlantique, mais en plus, la sécurité qu'on a, les radars font que ben, personne ne peut nous attaquer sur notre sol. Mais bien aimé, quelle est la réalité? C'est qu'il y a eu 2977 morts. Et encore, ça, c'est des morts directes. Parce qu'aujourd'hui, 20 ans après, les spécialistes disent qu'il y a eu encore beaucoup plus de morts dues à tout ça. Bien aimé, c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Je voulais insister là-dessus. Mon deuxième point par rapport à cet homme de Luc, du riche insensé, c'est que le monde, bien aimé, est instable. Aujourd'hui, tu peux avoir, mais demain, tu peux manquer. Aujourd'hui, tu peux avoir la richesse, mais demain, le médecin t'annonce que tu es malade. Et vous savez, à ce moment-là, ta richesse n'a plus de goût. Vous savez, comme le bien-aimé disait tout à l'heure pendant la modération, bénissons Dieu parce que nous avons la vie. Bien-aimé, la vie, c'est un don. Vivre, c'est quelque chose. Mais aimer la vie, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui vivent, qui sont dépités, qui sont tristes. Mais apprécier la vie, ça c'est un don de Dieu. Il y a des pays comme le Luxembourg où le niveau de vie est élevé. Mais bien aimé, moi je n'ai jamais été là-bas, mais ceux qui vont là-bas nous disent, quand ils reviennent, vous savez, tout est tellement propre, tout est tellement parfait, mais en même temps, il y a un arrière-goût de mort. Les gens qui viennent de là disent, c'est un pays qui est mort. Et effectivement, le taux de suicide est élevé là-bas. Pourtant, les gens ont tout. Mais le goût de vivre, ils ne l'ont pas. Tu as une voiture, tu as un CDI, tu as une femme, tu as une maison. Mais tu rentres chez toi, tout ça, ça ne te dit rien du tout. Parce qu'au fond de toi, tu es triste. C'est ça la réalité, bien-aimé. Être riche pour soi, c'est là que ça mène, bien-aimé. C'est ça la réalité. Regardons l'actualité, bien-aimé, encore une fois. Regardons l'état du monde. Crise sanitaire. Est-ce que les gens vivent? Les gens ne vivent pas. Les gens ne vivent pas. On vous arrache votre liberté. C'est ça la réalité, bien-aimé. L'homme fait des projets, mais il néglige Dieu dans ces projets-là. Voilà là où on arrive. Où on te dit maintenant, fais-toi vacciner, ça ira mieux. Tu seras libre. Mais vous savez, tu ne peux pas jouir de ton bonheur véritablement quand tu sais que tout le monde ne peut pas en jouir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Même si toi, tu es vacciné, tu as ton pass sanitaire. Hier, j'écoutais que le stade, bon, c'était à Saint-Étienne, mais il disait que depuis l'instauration du pass sanitaire, il n'arrive même pas à atteindre 18 000 personnes dans les stades. Pourtant, en même temps, on nous dit 50 millions de Français sont vaccinés. Mais les stades, il n'y a personne. C'est ça la réalité, bien-aimé. Tant que tu n'as pas la paix, tu ne peux pas vivre. Cet homme-là, dont on lit l'histoire, il a travaillé dur. Et je pense que pendant qu'il travaillait, il n'était pas en paix. Et il se disait, quand je vais être à la retraite, quand je vais m'arrêter de travailler, alors là, je vais croquer la vie à pleines dents. Vous savez, cette phrase-là, c'est la phrase qu'une sportive française avait dit lorsqu'elle est arrivée à la retraite. Camille Muffat, c'est un des grands prodiges de la natation française. Elle a pris sa retraite, je crois qu'elle devait avoir combien? 26 ans peut-être? 25 ans? Alors elle explique que, vous savez, à ce haut niveau-là, on n'a pas de vie parce qu'entraînement, dans le bassin, on est dans le bassin toute la journée. Toute la journée dans le bassin. On n'a pas de vie extérieure et puis il faut faire attention à ce qu'on mange. Alors, quand tu arrives comme ça, 26 ans, elle se dit, maintenant je vais croquer la vie à plein temps. Mais vous savez, nous savons ce qui s'est passé, bien-aimée. Elle a participé à cette émission télé-réalité avec Alexis Vastine. Des jeunes, même pas 30 ans. Hélicoptère, crash, mort. Alors on se dit, cette personne qui se disait maintenant, elle avait des projets d'être certainement consultante, de faire des études, parce que vous savez, à 25 ans, tu es déjà millionnaire, mais en plus, tu as la possibilité de faire des études, d'investir ici, de faire... Mais bien aimé, c'est ça la réalité. Vous savez, quand tu sais que demain, tu rentres chez toi, mais tu sais que demain, tu as une grosse journée de travail, tu n'as pas la paix. Même quand tu dors, tu penses à ta grosse journée qui va commencer à 7 heures. Bien-aimé, tu n'as pas la paix. C'est ça que Dieu nous dit. Il dit, moi j'ai un projet de paix. Et on va lire hein, ce projet que Dieu a pour nous. Ne serait-ce qu'une grosse journée de travail, quand tu y penses. Déjà, rien que la journée que tu viens de finir là. Quand tu y penses, ah oh là là, aujourd'hui j'ai mal négocié ça. Aujourd'hui, déjà, tu as du mal à dormir. Alors quand tu penses au lendemain, quand tu penses que tu as un examen, tu as le bac à la fin de l'année, je peux te dire que toute l'année, t'es pas serein, t'es pas sereine. Et une fois que tu as passé le bac, tu attends encore les résultats. Et même quand tu as le résultat, tu as eu ton bac. Tu dis, ah, maintenant 2 mois de vacances. Mais quand tu sais que tu as 2 mois de vacances, au début, tu profites, mais il y a toujours un arrière-goût qui te dit, mais ces 2 mois vont passer vite, ça va s'arrêter. Après, il faudra reprendre encore, il faudra se battre. Celui qui va à la fac, il faudra trouver un logement, il faudra trouver ceci, il faudra trouver cela, il faudra tout. Il y a toujours quelque chose qui fait que le bonheur n'est pas vécu totalement, bien-aimé. C'est ça, c'est ce qu'on tire comme enseignement de la vie de cet homme qui s'est dit, mon âme, réjouis-toi. Dieu lui dit, attention, le bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes. Bien-aimé, regardons l'actualité, regardons. Alpha Condé, président de la Guinée. Vous savez, le chef de la junte, Doumbouya, je ne sais pas comment, qui le destitue. Vous savez, quel était son rôle, ce monsieur-là? C'était l'aide de camp du président. C'était l'homme de main du président. C'était l'homme de confiance du président. L'homme sûr du président. Et quand le président fait un discours, ou quand il est au milieu de la foule, c'est ce monsieur-là qui tenait son parasol. Parce qu'il fait chaud en Afrique. Donc c'est ce monsieur qui tenait son parasol. Mais bien aimé, aujourd'hui. On a vu des vidéos hein, quand ils ont décidé de, entre guillemets, destituer le président. C'est ce monsieur-là qui tenait son parasol, celui qui était à ses ordres, qui tenait son sac. Celui-là, aujourd'hui, qui est devenu président. Et le président, il est assis, là, on lui pose des questions. Humilié, bien-aimé. Vous voyez ce qu'est ce monde. Alors la question aujourd'hui, c'est pourquoi chercher à s'accrocher à un monde qui est en perte de vitesse. Ce monde est en perte de vitesse, bien-aimé. Vous pensez que même quand le président de la République fait un bain de foule, il est tranquille. Mais non, il pense au monsieur qui l'a giflé. Et bien souvent, les gardes du corps sont en panique parce que quelqu'un peut sortir une arme contre le président. Bien-aimé, c'est ça la réalité de ce monde. C'est que le bonheur n'est pas total. La vie n'est pas totale. La paix n'est pas totale. On a toujours peur de perdre. On a toujours peur de tomber en embuscade. C'est ça la réalité, bien-aimé. Regardez l'ancien président du Tchad, Idriss Déby. tués. Bon, on dit les rebelles, bon, on ne sait pas. Parce que vous savez, à ce niveau-là, ils sont tellement cruels qu'ils sont capables de faire des alliances pour s'entretuer entre eux. Mais bien aimé, vous pensez que ces présidents-là, vous pensez qu'ils sont sereins, ils ne sont pas sereins. Regardons M. Macron. Ils ne sont pas sereins. Nous, on les voit, on se dit, oh là là, j'aimerais être à sa place. Mais lui, j'ai suivi une fois, je crois, un documentaire sur les anciens premiers ministres. Tous, hein, à l'unanimité, ils disent, mais ces gens ne dorment pas. Ils sont scotchés à leur téléphone. Et quand le téléphone sonne, la question c'est bonne ou mauvaise nouvelle. Surtout dans le contexte où la France est cible d'attentats, ils ne sont pas sereins. Mais quand les gens les voient, ils se disent, oh là là, monsieur le Premier ministre, mais le Premier ministre, il ne dort pas. Et non seulement cela, il craint aussi pour sa place, parce qu'un jour ou l'autre, le président peut dire, allez, monsieur, on va changer, remaniement du gouvernement. Donc malgré tout, tu n'es pas à l'aise, parce qu'il y a un arrière-goût qui vient t'arracher ce bonheur à la bien-aimée. C'est ça ce monde, le monde tel qu'il est aujourd'hui. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il en a beaucoup, c'est ce que Jésus dit. Cet homme avait beaucoup, mais il a négligé le fait que les choses changent très vite. Le matin, tu peux être président, le soir, prisonnier. On a vu, bien aimé, tous les chefs d'État, Bouteflika qui vient de mourir, dans quel état ? Quasiment comme un légume, lui qui a dirigé l'Algérie de main de fer. C'est ça la réalité. Vous savez, je regardais la cérémonie de Belmondo. Et à un moment, on voit une limousine qui arrive. Et de la limousine sort la grande star. Vous savez, ils étaient rivaux. Hein, son rival, Alain Delon, mais bien aimé. Le monsieur sort de sa voiture, on est obligé de le porter, il a une canne et il s'accroche sur le monsieur du protocole pour marcher. Mais vous savez, Alain Delon, mais c'était la gloire de la France. Quelle beauté, quelle force, quel charisme. Bien aimé, je voyais ça, je dis, mais ah bon? Il est devenu comme ça. Il titube, enfin, c'est limite, il a besoin d'un déambulateur pour avancer. Il serait bien. Il a une queue, une canne. Il tient le monsieur qui l'a bien aimé. Mais pourtant, il sort d'une limousine. Pourtant, les millions, il en a. Bien aimé, je cite tous ces exemples-là pour nous montrer, comme le Seigneur a dit, le projet que le Seigneur a pour nous, c'est un projet de paix. Un projet d'avenir, un projet d'espérance. C'est ça le contraste. Je cite tout ça pour nous montrer que sur la terre, finalement, il n'y a pas d'espoir. Dans le sens où tout finira par mourir. Et il y a des versets qui le disent, que toute chose passera. Ce monde passera. Sa convoitise passera. Ceux qui étaient forts autrefois, aujourd'hui, on a vu le Usain Bolt qui ont été battus. On a vu le Mike Tyson qui ont été battus. On a vu des gens incontournables, mais finalement, qui sont retrouvés dans des positions où on a même pitié d'eux. Bien aimé, c'est ça la réalité. Alors, je me mets à la place d'un homme qui n'a pas Dieu. Vous imaginez quel malheur, quelle tristesse il doit avoir de penser qu'un jour il peut tomber malade, de penser qu'un jour il va mourir, de penser qu'un jour il n'aura plus la possession de tous ses moyens. Vous voyez, un homme qui n'a pas Dieu, bien aimé, ça fait mal. Parce que lui, il n'a pas d'espérance. Son espérance, c'est ce qu'il a, ce qu'il est. Et on voit des gens qui étaient forts, Alzheimer aujourd'hui. Tu perds ta mémoire. Tu ne sais même plus comment tu t'appelles, alors que tu as été homme fort. Tu ne sais plus comment, où tu habites. Bien-aimé, c'est ça la réalité de ce monde. Ce monde est instable. Ce monde est en perte de vitesse. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, bien-aimé, sur l'actualité. Ce n'est pas ça le but. Mais je prends tous ces exemples pour nous montrer. Vous savez, les Marines américains qui ont été tués en Afghanistan, ils s'apprêtaient à partir. Et je regardais un peu l'histoire. Ce sont des jeunes. Hein. Il y a des femmes qui ont 19 ans, 20 ans. Il y a des jeunes qui ont 22 ans, il y en a un dont la femme était enceinte, il était pressé de retourner quand M. Biden a dit qu'ils allaient retourner chez eux. Donc, ils géraient les affaires courantes finalement, quoi. Ils étaient à l'aéroport pour sécuriser l'aéroport et ils savaient que dans quelques jours, we are going home, on rentre à la maison. Alors, je suivais un des interprètes qui a travaillé avec les Marines américains. Parler avec un Marines. Et le Marines lui dit, écoute, viens à l'aéroport, moi je suis à tel endroit, gate, telle porte, viens à tel endroit, je t'attends là-bas pour te faire entrer. Il était avec sa famille bien-aimée. Et pendant qu'il avance, il dit au Marines, bah, écoute, je suis à tel endroit, voilà, je vois ci, je vois ça. Le Marines lui dit, écoute, avance, viens jusqu'à tel endroit. Et nous, le projet c'était qu'il puisse accéder à l'endroit et que les Américains puissent le prendre avec lui et toute sa famille parce qu'il a servi les Américains. Et vous savez, l'histoire dit finalement qu'on a entendu un grand boom. Donc c'est-à-dire que pendant qu'il parlait avec le Marines américain, le terroriste est venu, il s'est fait exploser à ce moment-là. Il était avec sa famille. Lui, sa femme et lui, morts sur le champ. Les enfants sont restés vivants. Bien-aimé, quand j'écoutais, je me disais, oh là là, le monsieur qui se disait, ça y est, je vais quitter. Ça y est, les Américains vont me prendre en charge. Mais bien-aimé, il y a des variables. C'est ce qu'on appelle en français des impondérables. Des choses qui ne dépendent pas de toi. Toi, tu as fait tes projets, mais tu n'as pas tenu compte de tous les paramètres. Est mort sur le coup. C'est ça, bien-aimé, la réalité. Des projets sans Dieu. Alors, quel est le projet de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous propose? Jésus nous dit dans Jean 10:10, je suis le bon berger et je donne la vie en abondance. Quand le Seigneur parle de vie abondante, Jean 3:16 nous dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Quand on parle de vie éternelle, on ne parle pas seulement d'une vie qui n'a pas de fin. Parce que éternel, c'est quelque chose qui ne finit pas. Mais quand on parle de vie éternelle, on parle d'une vie qui a désormais un sens. C'est-à-dire que ta vie, c'est comme si tu nais à ce moment-là. Ta naissance commence là. Et finalement, à partir de cette naissance, tu as une vie qui se prolonge dans l'éternité. Mais quelle est cette vie-là? C'est une vie où Dieu te prend en charge. Où tu entres dans le projet de Dieu. Où tu as un sens finalement à ta vie. Où tu as, malgré les réalités, une espérance qu'un jour, le Seigneur me prendra et je serai avec lui. Bien-aimé, c'est ça le projet que Dieu a pour nous. Le véritable projet de Dieu, c'est de vivre avec l'homme. Jésus nous dit quoi dans Jean 14? Nous allons lire, bien-aimé, Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, bien-aimé. Jésus sait que sur la terre, il y a beaucoup de choses qui nous troublent. J'ai cité quelques exemples, bien-aimés, avec les attentats, avec des coups d'État, avec la crise sanitaire. Où on divise les gens contre les autres. On oppose les uns aux autres, les vaccinés contre les non-vaccinés. C'est une souffrance. Tu n'as plus ta liberté. Qui aurait pu penser qu'en France, un jour, pour aller manger, on va te dire, monsieur, qui aurait pu penser ça? Qui? Mais c'est ça la réalité, bien-aimé. Qui aurait pu penser? Qu'on t'interdirait d'aller faire ton travail en tant que médecin, infirmier ou aide-soignant, parce que tu ne t'es pas conformé aux dispositions du gouvernement injustes. Qui aurait pu penser ça, bien-aimé? Qui aurait pu penser que, à cause du choix que tu fais, on t'interdit? Vous savez, M. Véran dit même qu'il n'y aura pas d'arrêt maladie qui seront validés pour raison de non-vaccination. Bien-aimé, qui aurait pu penser ça? On aurait dit dans une république bananière, oui, d'accord, mais pas en France. Mais bien-aimé, nous sommes en France. C'est ça la réalité. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, qui nous échappe. Et Dieu permet cela pour qu'on entre maintenant dans son projet. Qu'on comprenne que finalement, ce monde, on ne contrôle rien du tout, bien-aimé. On ne contrôle rien. On ne contrôle rien. Aujourd'hui, les gens sont méfiants. On se méfie des uns des autres. On a en tête les histoires des attentats. Ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc tu es dans la rue, tu regardes à gauche, à droite. Parfois même des collègues, tu vas épier parce que tu dis, oh, mais le collègue, il a un peu une barbe. Il a le signe musulman, donc il fait beaucoup de la prière. Donc, voilà, il n'y a plus la... Le vivre ensemble n'est plus. Parce que finalement, on se dit, bah, après tout, je ne sais pas qui est qui réellement. C'est ça la réalité. Et tout ça, bien-aimé, bah, ça apporte des troubles. Ça enlève la paix. Aujourd'hui, pour aller à l'hôpital, il faut un pass sanitaire. Vous voyez la contradiction? Là où tu es censé aller pour qu'on te soigne, ou pour visiter quelqu'un, il faut le pass sanitaire. C'est ça, bien-aimé, la réalité. Ce monde nous échappe. Tous ces événements sont là pour nous dire attention. Attention, est-ce que tu continues à t'accrocher à ce monde? Tu continues à t'accrocher à cette vie? Je vais être le plus beau. Je vais être la plus belle. Mais regarde ceux qui ont été les plus beaux, les Cindy Crawford, regarde toutes ces stars d'autrefois. Comment elles sont devenues aujourd'hui? Bien-aimés, vous savez, Dieu parle des richesses injustes dans Luc 16. Il dit que ce sont des richesses qui vont te trahir un jour. Ta beauté, un jour, sera ta source de honte. Pourtant, autrefois, on t'a connu parce que tu étais beau. Mais vous savez, quand les gens vont te revoir, eux, ils vont exiger que tu sois toujours au même niveau que tu as été. Mais pourtant, la réalité, la vie, fait que eh ben, les choses changent. C'est ça la réalité. Un joueur de foot, les gens vont vouloir exiger que tu sois toujours au niveau où tu as toujours été quand tu étais fort. Mais ce n'est pas la réalité. C'est que deux fois, tu vas jouer avec une gêne, mais celui qui te voit, lui, il ne sait pas que tu as une gêne au niveau des adducteurs, il ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il court, mais... Ah, mais lui, il ne sait pas que toi, tu souffres. Il ne sait pas que tu n'as pas de souffle. Mais lui, il va exiger que tu sois toujours à ce niveau-là, bien-aimé. Ça produit la souffrance. Quand tu sors du terrain, on vous critique. Vous savez, les journalistes, ils sont très forts pour ça. Ils font des commentaires parfois, ils savent piquer là où ça... On a vu des joueurs sortir de leur gant. Hein. Vous savez, ils sont habitués à la critique. Mais on a vu des joueurs, parce que c'était pas le bon moment, parce que c'est sortir de leur gant, vouloir se battre ou insulter les journalistes. C'est ça la réalité, bien-aimée. Et Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà, bien-aimés, le projet du Seigneur, c'est qu'on soit avec lui. Et vous savez, quand tu es avec le Seigneur, tu n'as plus rien à craindre. On se rappelle de ce fou de Gadara qui a été délivré par Jésus. On dit qu'ayant recouvert le bon sens, il ne quittait pas le Seigneur. Qu'est-ce qui va t'embêter encore, bien-aimé? Qu'est-ce qui va t'embêter? Tu es avec le Seigneur. Regardons Apocalypse 21. Le projet de Dieu. Nous avons dit, le projet de Dieu, c'est que nous puissions accepter Jésus-Christ. Et Jésus en nous, il nous remplit de sa paix. Il nous remplit de sa joie. Il nous remplit de sa vie. C'est ça, bien-aimé, le projet de Dieu. De sorte, comme il est écrit dans Psaume 46, les nations, les royaumes s'ébranlent, mais le peuple de Dieu est dans la paix. Il est dans la paix parce que, en réalité, ce ne sont pas les circonstances qui dictent qui doit vivre, mais c'est Dieu. C'est ça la réalité, bien-aimé. Apocalypse 21, nous lisons, bien-aimé, le projet que Dieu a pour chacun de nous. Puis je vis, verset 1er, un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle. J'imagine, bien aimé, la joie et la voix. On dit une forte voix, donc une voix vraiment puissante. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Bien aimé, Dieu lui-même habitera avec qui? Avec son peuple. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. On a, vous voyez, c'est à trois reprises, hein, c'est écrit. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, bien aimé. La vie sur la terre, dans ce monde. Que des mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles, vous savez, la mort de quelqu'un que tu connais. Au-delà de la tristesse de ne plus voir la personne, il y a une autre tristesse qui se dit, mais où on se dit, mais est-ce que cette personne a accepté Jésus? Est-ce que quelqu'un lui a parlé? Bien-aimé, vous voyez, tout ça, ça rend triste. Au-delà de ne plus voir la personne que tu as aimée. Mais il y a la question qui t'emmène à te dire, mais est-ce qu'il a accepté Jésus? Ou est-ce qu'il a résisté? Il a refusé? Ne serait-ce que ça, bien-aimé, ça fait que la terre, bien-aimé, n'est pas agréable à vivre. À cause du péché, bien sûr. Parce que quelqu'un posera la question, oui, mais c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé... Oui, Dieu a créé la terre, il a créé le monde, oui. Mais l'homme, ayant désobéi, il a fait entrer le péché, et le péché a corrompu tout ce que Dieu a fait. Mais Dieu a trouvé la solution en envoyant son fils Jésus-Christ, de sorte que celui qui a Jésus, lui ne périt pas. Il a une véritable vie. Il aura peut-être des moments où il sera triste, des moments où il aura des coups durs, mais il a la parole de Dieu pour lui dire, « Oh, garde espérance, ne crains rien, crois en Dieu, le Seigneur est là, le Seigneur s'occupe de toi. » Bien-aimé, c'est ça le salut. C'est non seulement la vie éternelle, mais c'est l'assurance que Dieu s'occupe de moi. Vous savez, c'est ça qui te fortifie. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, parfois, la journée est longue. Mais qu'est-ce qui te donnait du courage? Tu regardes l'heure, tu dis, ah, il est 17h. À 17h30, j'ai fini. Donc, il n'y a plus qu'une demi-heure à tenir. Bien, mais ne serait-ce que ça, ça te donne la joie. Ah, plus qu'une demi-heure. Tu sens comme un poids qui s'enlève. Bien-aimé, c'est cette espérance-là que nous en avons, en tant qu'enfants de Dieu. On nous dit que tu essuieras les larmes. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône me dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, écris ces choses, car ces paroles sont véritables et certaines, on nous dit, bien-aimés. » Ce n'est pas une invention. Dieu nous dit que tout ce qui est écrit là est certain. C'est ça, bien-aimés, le projet que Dieu a pour chacun. De devenir ses enfants, d'être pris en charge par lui, d'avoir l'espérance dans l'avenir, de vivre dans la paix, quelles que soient les situations, mais surtout dans l'espérance de rencontrer notre Dieu et de vivre dans un endroit bien-aimé où il n'y aura plus de coup d'État. Il n'y aura plus de coup d'État, il n'y aura plus d'élection. Où on va dire, Monsieur Zemmour, Monsieur Tel, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas la peur du lendemain, comme je disais tout à l'heure. Tu regardes l'heure, tu dis, ah, il est 17h, bon, à 17h30, j'ai fini. Ou même quand tu es au boulot, tu sens comme un poids. Mais, tu sais, à peine tu rentres dans ta voiture pour rentrer chez toi, tu repenses que, ah, demain, je recommence à 9h. Ah, ça enlève encore la joie. Donc, tu es tout le temps dans le compte à rebours. 9h, 10h, 11h, bon, tu regardes, bon, plus que 3h, plus qu'une heure, plus que... Mais bien aimé, c'est ça la vie sur la terre. Mais là, on nous dit, là on sera avec Dieu. Le temps sera arrêté sur la joie et le bonheur, bien aimé. Et on n'a pas tout lu, hein. Je nous invite à lire Apocalypse 22, où on nous décrit la cité de Dieu, bien aimé. C'est ça, bien aimé, le projet de Dieu. Alors j'ai voulu faire ça en deux parties. La première partie, montrer le monde, ce que le monde nous propose. Le projet du monde, c'est quoi, bien-aimé? C'est souffrance sur souffrance. C'est guerre sur guerre. Pour les amateurs d'information, on a suivi la nouvelle, tension qu'il y a aujourd'hui entre la France et les États-Unis, pour ceux qui suivent un peu l'actualité. Les Français ont signé un accord avec l'Australie de 50 milliards. Et entre-temps, les Américains passent derrière la France pour des porte-avions, pour différents engins de la sorte. Les Américains passent derrière, sans scrupule, parce que ce sont les requins, ils passent derrière et ils doublent la France. Bien-aimé, quand on voit ça, on se dit, mais quand est-ce que ça va finir? Les gens pensent, ils se disaient, bon, Trump n'est plus là, ah, ça va être... Bien-aimé, ce n'est pas une question de Trump ou pas, c'est une question de patriotisme. Quand il s'agit des intérêts, ah, l'amitié, on met de côté. Donc, il y a toujours tension entre la Chine et elle, tension entre la Russie et elle, tension entre la Syrie et elle, tension entre... Bien-aimé, ça ne va pas finir. Tu as beau être chez toi, dans ta campagne, manger ton pâté, mais tu ne peux pas vivre le vrai bonheur parce qu'autour de toi, eh ben c'est la désolation. C'est ça la réalité, bien-aimé. C'est ça ce monde. Et c'est ça l'exemple du riche insensé qui a fait ses projets, mais qui n'a pas tenu compte de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la vie. C'est que Dieu lui prête vie. Comment tu vas profiter? Si tu sais que finalement, tu vas mourir, tu ne peux pas profiter, bien-aimé. C'est ça la réalité. On a vu beaucoup d'exemples. La fin de Michael Jackson, on a vu Christian Audigé. C'est un témoignage que je raconte souvent. Le prodige français, un jeune de banlieue, de province, qui s'est construit tout seul, tailleur. Il s'est retrouvé jusqu'à à Los Angeles. Tailleur de Michael Jackson, tailleur des très grands. Bien-aimé, mort à 45 ans, je crois, 46 ans. Cancer. Pourtant, on disait, voilà l'homme qui a réussi. Il a tout construit de ses propres mains. Et bien-aimé, vous voyez, il y a toujours un arrière-goût qui dit, oh, mais c'est triste. Pourquoi? Mais bien-aimé, c'est ça, ce monde. Et Dieu nous propose le véritable bonheur en Jésus-Christ. C'est ça le projet de Dieu pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu veux construire avec Jésus? Ou est-ce que tu veux construire dans ce monde? Mais ce monde qui finalement tout te prendre. Ce monde où tu vas tout laisser. Peut-être même que ton souvenir, au bout de 20 ans, 30 ans, passera. Alors qu'avec le Seigneur Jésus, ton souvenir sera éternel. Vivre avec notre Dieu. Bien-aimé, c'est cela. Méditons l'exhortation de ce matin. Qu'est-ce que nous voulons? Les projets de ce monde. Qu'est-ce qu'on te promet dans ce monde? Les mêmes qui te promettent. On a vu des gens à qui on a dit, allez, CDI, CDI. Mais les mêmes, on te dit, bon, non, c'est plus possible. Ou alors on te vire. Le même qui t'a promis. C'est ça ce monde, bien-aimé. C'est ça le fonctionnement de ce monde. Tu vas voir le médecin, il te dit, ben, je ne peux rien faire pour toi. C'est ça ce monde, bien-aimé. Quelle tristesse pour celui qui n'a pas Dieu. Alors, médite. La vie n'est pas dans le fait que tu sois français en disant, bon, moi je suis en Europe, je suis à l'abri de ceci ou cela, non. Vous savez, les gens qui sont en Afrique, quand on parle avec eux, ils se disent aussi, mais comment en Europe vous avez des inondations comme ça en France? Il y a des morts. Mais comment est-ce possible? Vous voyez que chacun a sa réalité. L'Afrique, il va y avoir la chaleur, il va y avoir parfois Ebola, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Mais malgré tout ça, bon, les gens ont quand même le goût de vivre. Parce que Dieu fait grâce. Mais de l'autre côté, les gens qui sont dans le nord disent, bon, je vais dans le sud, prendre ma retraite, dans le Gard. Mais bien aimé, nous voyons tous. J'ai vu une fois une maison emportée, une maison qui a été poussée par l'eau. On a vu les inondations qu'il y a eu en Allemagne, on a vu en Belgique. Bien aimé, c'est l'Europe, hein. Et quand on voit ça, on se dit, mais où est-ce qu'on est en sécurité finalement? Où est-on en sécurité? L'autre côté, attentat. L'autre côté, inondation. L'autre côté, tremblement de terre. L'autre côté, Covid. Mais finalement, on est où en sécurité? Il y a des gens qui ont contracté le Covid. Chez eux, on ne sait pas comment. Il n'a pas eu d'interaction avec quelqu'un. On te dit, bon, vaccine-toi. Première dose. Deuxième dose, on dit, bon, maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut une troisième. Mais bien aimé, la question c'est, où est-on en sécurité dans ce monde? C'est ça la question. Ben, moi, je te dis aujourd'hui, nulle part. Nulle part, on est en sécurité. La sécurité se trouve dans le Seigneur. Il est écrit dans Proverbes 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte et immense. Le juste s'y réfugie. Et il est comment? Ah ben on va finir avec ça alors. Proverbes 18, verset 10. C'est le chant qu'on chante. Le nom du Seigneur est... Je cherche Proverbes 18. Un refuge, le juste accourt dans ses murs. Il est sauvé, voilà. Proverbes 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Et il se trouve, comment? Dans ma version, c'est écrit, en sûreté, bien-aimé, même pas en sécurité. Donc, il est... Quand il entre, vous savez, à l'époque, hein, les villes ont été bâties avec comme une sorte de clôture. Et dans ces clôtures-là, il y avait comme une guérite qui fait que la personne qui est là voit les ennemis. Et de là où il est, il peut aussi amorcer une attaque contre les ennemis. Donc, finalement, la clôture, c'est ça qui faisait la protection de, on se rappelle, hein, les murailles de Jéricho, tout ça. Et donc là, on nous dit que le nom de Dieu, l'Éternel, est une tour. Donc, quand tu rentres dedans, vous savez, aujourd'hui, pour ceux qui savent, vous savez, quand je me retrouve, par exemple, ici en France, si je suis poursuivi par le gouvernement français, si j'entre dans l'ambassade du Congo ou j'entre dans l'ambassade du Cameroun, par exemple, ils n'ont plus le droit de mettre la main sur moi. Parce que Bien que je sois en France, je suis dans une propriété qui appartient à un pays étranger. Donc à partir du moment où j'entre dans l'ambassade, même si le policier est là, on a vu certains narguer même les policiers à distance, de « oh, oh, oh », voilà, parce que lui, il est en sécurité. Donc pour entrer, pour les récupérer, ah, il faut qu'il y ait des accords, il faut qu'il y ait un protocole terrible. Et là, on nous dit que notre ambassade à nous, notre protection, c'est Dieu. Alors le juste, lui, il a Dieu. Lui, il peut courir vers Dieu. Et là, il est en sûreté. Personne ne peut rien lui faire. C'est ça, bien-aimé. Et même s'il arrivait que ce monde arrive à prendre ta vie, la vie continue avec Dieu. Ça, personne ne peut t'enlever, bien-aimé. C'est ça. Le nom du Seigneur est un refuge. Peut-être que certains connaissaient le chant, mais voilà le verset qui va avec. Le nom de Dieu est une forte tour. Quand le juste entre dans ce nom-là, en Dieu, personne ne peut rien lui faire. C'est ça, bien-aimé. Notre joie, notre espérance, c'est ça qui nous donne la paix. C'est ça qui nous dit que même s'il y a des difficultés sur la terre, tout ça s'arrêtera un jour et nous serons avec notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta fidélité, Seigneur, aujourd'hui. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à réaliser que, Seigneur, le projet que tu as pour nous, Seigneur, d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ça le véritable projet, Seigneur. Le projet que tu as pour nous, c'est de faire de nous de nouvelles créatures, Seigneur. Le projet que tu as pour nous, c'est de faire de nous des lumières dans ce monde, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à réaliser cela, Seigneur. Nous voyons combien ce monde nous échappe, Seigneur. Combien ce monde est difficile. Avec tout ce que nous avons cité, les catastrophes naturelles, avec les problèmes d'attentats, avec les problèmes de tremblements de terre, avec les inondations, avec, Seigneur, toutes les difficultés du quotidien, Seigneur, les maladies, les mauvaises nouvelles. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur. Toi, tu nous as dit que tu as un projet pour nous, un projet de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Or, ce monde, Seigneur, a perdu l'espérance. Les gens ne croient plus en la parole publique, en la parole des politiques, parce qu'ils n'ont pas de solution, parce qu'ils mentent, parce qu'ils font des calculs personnels pour leur réélection, Seigneur. Les gens ne croient plus en l'avenir, Seigneur. Les gens sont méfiants, les gens vivent dans la mélancolie, dans la tristesse, Seigneur. Parce qu'ils ont perdu toute espérance, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu te révèles, Seigneur, aux Français, nous prions pour que tu te révèles aux humains de manière générale. Qu'ils comprennent que ce monde est tellement instable. Qu'ils comprennent aussi en même temps que toutes ces choses, c'est toi qui permets cela pour que l'homme puisse te chercher, puisse chercher refuge en toi, Seigneur. Seigneur, merci d'être notre refuge à nous. Merci d'être notre espoir, notre espérance. Merci d'être notre source de paix, Seigneur. Nous avons compris que sur la terre, il n'y a aucun endroit où l'homme peut être en sécurité véritablement. Il n'y a aucun endroit où l'homme peut se mettre et vivre éternellement. Il n'y a aucun endroit où l'homme peut se soustraire d'une maladie. Il n'y a aucun endroit où on peut aller, Seigneur, et être en paix. Seigneur, nous nous tournons vers toi aujourd'hui. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.